VOA Afrique, les infos. À Washington.
Eric Manirakiza en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique. Ravi d'être avec vous pour vous présenter cette deuxième édition de la soirée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, mercredi 3 février 2017, c'est le 2 février. Voici d'abord le sommaire. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est en tournée dans le bassin du lac Tchad où sévit Boko Haram. Une cinquantaine de djihadistes al-Shabaab tués dans ce Mali dans une offensive de l'armée kényane. Le Monde aujourd'hui nous promène à Ouagadougou dans les galeries marchandes du Fespaku.
Dans des allées feutrées d'une grande salle, se dressent des stands tout aussi colorés les uns que les autres.
Issa Napon fera le point. Le ministre américain de la Justice est dans la tourmente. Jeff Sessions avait omis de dire ses rencontres avec l'ambassadeur russe pendant la campagne présidentielle. TP Mazembe, le tout-puissant Mazembe, recrute le latéral international belge Anthony Van den Boré. Et ce n'est pas tout pour les sports, sans oublier l'économie à suivre après le journal. Des représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies séjournent aujourd'hui et demain au Cameroun. C'est la première étape d'une tournée africaine pour évaluer la menace que représente Boko Haram dans les pays les plus touchés par le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Jacques Aristide.
Les membres du Conseil de sécurité sont arrivés à Yaoundé, la capitale camerounaise. Leurs premières rencontres sont prévues pour demain. Ils entendent ensuite se rendre au Tchad et au Niger, puis finalement au Nigeria pour visiter un camp de réfugiés qui ont fui les exactions de Boko Haram. Ces quatre pays font également face à une grave crise humanitaire. Dans un communiqué, le ministre camerounais chargé des relations extérieures fait remarquer que ce périple est le premier du genre jamais initié par le Conseil de sécurité dans cette partie de l'Afrique. L'ambassadeur de la France à l'ONU, François Delattre, a indiqué que les 15 pays membres souhaitent venir en soutien aux États concernés dans leur lutte contre le terrorisme. Rien qu'au Nigeria, les violences menées par Boko Haram depuis 2009 ont tué plus de 20 000 personnes et fait 2,6 millions de déplacés. Face au problème critique de la malnutrition, parfois sévère, du côté des enfants, la délégation compte inviter les gouvernements à faciliter l'accès à l'aide humanitaire et à adopter une approche globale pour régler les problèmes à la source du terrorisme.
Jacques Aristide, trois groupes djihadistes opérant dans le Sahel, dont ceux du Malien Iag Agali et de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, ont annoncé leur fusion dans une vidéo à rapporter aujourd'hui l'agence mauritanienne ANI. Ce nouveau mouvement est baptisé Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il serait dirigé par le Touareg Iag Agali, d'après l'agence Nouakchott Information, qui a affirmé à l'AFP avoir reçu la vidéo hier soir, mais qu'elle ne comptait pas la mettre en ligne. Première visite officielle aujourd'hui du président gambien à Dakar, qui doit rester au Sénégal jusque samedi. Et c'est cette première visite depuis sa prise de fonction. Cette visite marque la nouvelle dynamique des relations entre les deux pays suite au changement intervenu en Gambie selon la présidence sénégalaise. Adama Barrow avait fait 10 jours à Dakar en janvier et prêté serment à l'ambassade de Gambie. Kinshasa a décliné aujourd'hui une offre d'appui de l'ONU dans les enquêtes menées sur des massacres présumés de civils par des soldats congolais dans le Kasaï, dans le centre du pays. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a rejeté le dernier rapport de l'ONU accusant les forces de l'ordre d'avoir délibérément tué au moins 40 civils dans les manifestations en décembre dernier. Suivez Lambert Mende au micro de Thierry Cambondi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Sur les 31 pertes en vies humaines enregistrées sur toute l'étendue du territoire national, 15 font encore l'objet à ce jour d'enquêtes de la justice militaire congolaise pour en déterminer la responsabilité et les auteurs. On est cependant loin, bien loin, de ces 40 personnes tuées par la police et la garde républicaine alléguées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme oppose invariablement au gouvernement et aux instances judiciaires congolaises le principe de confidentialité pour se dérober aux questionnements essentiels sur les preuves susceptibles d'étayer les graves accusations portées contre les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo et de permettre ainsi d'engager des poursuites contre leurs auteurs présumés.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement à Kinshasa. Le directeur général des douanes gabonaises a été inculpé et incarcéré. 4 mandats d'arrêt internationaux émis dans le cadre de l'opération anticorruption Mamba, lancée récemment au Gabon par les autorités. Alain Njoubi Osami, directeur général des douanes et des droits indirects, a été inculpé hier sous mandat de dépôt par un juge d'instruction, selon le procureur de Libreville, Steve Ndong, confirmant une information du quotidien L'Union. Au Tchad, le journaliste Daniel Ngadjadoum, collaborateur du journal Tribune Info, est libre de ses mouvements. Il avait été enlevé dimanche au Tchad par l'Agence nationale de sécurité. Aucune charge n'a été retenue contre lui, mais selon RSF, Reporters sans frontières, deux autres journalistes tchadiens se cachent car ils subissent des menaces téléphoniques provenant de la même agence. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. L'armée kényane aurait tué ce matin au moins 57 combattants Al-Shabaab. Cette opération a été menée à une trentaine de kilomètres de la ville d'Adaf Madow, en Somalie, qui abrite leur base. Claire Morin-Gibault.
Ce bilan a été confirmé par le porte-parole du colonel Joseph Ouwot, mais n'a pas été confirmé par une source indépendante. Les troupes kényanes de la force africaine en Somalie ont utilisé des canons d'artillerie appuyés par des hélicoptères. 5 camions équipés de mitrailleuses lourdes ont été détruites. Les habitants de la ville d'Afmado, dans le sud de la Somalie, ont confirmé à la Voix de l'Amérique que des combats acharnés entre des soldats de l'AMISOM et des combattants d'Al-Shabaab ont eu lieu ce matin. Des drones ont également été utilisés pendant l'offensive, peu après l'attaque d'un convoi de l'armée kényane. Par ailleurs, des hommes armés ont enlevé 2 enseignants kényans dans le camp de réfugiés de Dadaab, dans le nord du Kenya.
Claire Morin-Gibault. Tournée de 2 jours de la chancelière allemande Angela Merkel en Égypte et en Tunisie, la situation en Libye et l'afflux des migrants via la Méditerranée constituent essentiellement l'agenda de Madame Merkel. Le point avec Dili Dico.
Lors de sa rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sissi, Angela Merkel parlera de coopération économique, d'opportunités pour les compagnies allemandes en Égypte et de création d'emplois pour les jeunes Égyptiens. Mais selon Stéphane Sebert, porte-parole de la chancelière, le thème de la migration sera au cœur des discussions, notamment la sûreté des côtes et des frontières pour combattre les passeurs et les trafiquants. La Libye, porte d'entrée des migrants vers l'Europe et la fermeture des routes migratoires d'Afrique subsaharienne vers la Libye seront au centre des discussions. La chancelière avait déjà transmis un tel message à l'automne 2016 au Mali et au Niger. Suite à la fermeture de la route migratoire des Balkans début 2016, la Libye est redevenue, malgré les dangers, le premier point de départ des migrants vers l'Europe.
Et l'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été acquitté définitivement aujourd'hui par la Cour de cassation au Caire dans un procès pour la mort de manifestants lors de la révolte qui a provoqué sa chute en 2011.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre américain de la Justice est sur la corde raide. Jeff Sessions est dans le viseur des démocrates et de certains républicains pour ses contacts avec des responsables russes, alors que Donald Trump briguait la présidentielle. N'est-ce pas, Gabi Dorsil?
Monsieur Sessions, d'après une révélation du Washington Post, a rencontré par 2 fois l'an dernier l'ambassadeur russe Sergei Kislyak. L'ancien sénateur de l'Alabama a confirmé ce jeudi avoir rencontré l'ambassadeur Kislyak en marge de la convention du Parti républicain en juillet, puis dans son bureau au Congrès en septembre. Il dit avoir agi dans le cadre de ses fonctions de sénateur, pas en tant que conseiller de Donald Trump. Et M. Sessions de rassurer, je n'ai jamais rencontré le responsable russe pour discuter de la campagne électorale. Lors de son audition de confirmation en janvier comme ministre de la Justice, les sénateurs lui avaient demandé ce qu'il ferait s'il apparaissait évident qu'un membre de la campagne de Donald Trump avait été en contact avec la Russie. Jeff Sessions avait répondu
«
J'étais appelé substitut de la campagne une ou deux fois et je n'ai pas eu de communication avec les Russes. » Pour l'heure, plusieurs enquêtes sont en cours avec l'aval tant des démocrates que des républicains. Certains législateurs veulent que le ministre s'abstienne de l'enquête de son département sur les rapports entre l'équipe de Trump et la Russie. La députée Nancy Pelosi, leader de la minorité démocrate, et la sénatrice Elizabeth Warren sont allées plus loin. Elles réclament simplement la démission de Jeff Sessions.
Nouvel épisode de turbulence qui frappe l'administration Trump. Au moins 12 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués aujourd'hui dans des frappes aériennes attribuées à des drones américains dans le sud et le centre du pays, ont indiqué des sources sécuritaires et tribales. Les forces du régime de Damas ont repris aujourd'hui, selon Moscou et l'armée syrienne, la ville historique de Palmyre aux djihadistes du groupe État islamique qui essuie ainsi un nouveau revers militaire. La Commission européenne a durci le ton aujourd'hui face aux États membres de l'Union en menaçant de sanctions ceux qui refusent d'accueillir des réfugiés tout en appelant à durcir les mesures nationales contre les migrants irréguliers. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Muniteco est signée Morgane Guériec.
Agrobusiness en Côte d'Ivoire, le remboursement des souscripteurs lésés est reporté. Étant donné le volume des contrats reçus et l'importance cruciale de disposer de listes fiables, le comité de veille a proposé au gouvernement la date du 15 mars pour procéder au remboursement du capital investi par chaque souscripteur selon les ressources disponibles sur les comptes bancaires des sociétés d'agrobusiness. C'est ce qu'a fait savoir le gouvernement. Retour du FMI au Gabon, le Fonds monétaire international s'est engagé à convenir rapidement d'un nouveau programme de crédit au titre de la facilité élargie de crédit, mesure que le FMI déclenche lorsqu'un pays se heurte à de graves problèmes de balance des paiements à moyen terme. Le pays a réduit ses dépenses mais a toujours du mal à faire face à ses arriérés de paiement de salaire et ses dettes envers le secteur privé. Afrique du Sud, le géant des télécoms MTN enregistre une perte de 200 millions de dollars pour l'année 2016, une première dans l'histoire de la compagnie pénalisée par une énorme amende au Nigeria et la dépréciation du rand face au dollar, souligne Jeune Afrique.
Et nous retrouvons Nicolas Pinot pour votre page sportive. Bonsoir Nico.
Oui, bonsoir Eric. Bonsoir à tous.
On commence par le cyclisme, la Tropicale Amissa Bongo au Gabon.
La quatrième étape qui devait avoir lieu aujourd'hui entre Fougamou et Lambaréné a dû être annulée en raison d'un incident technique survenu sur l'un des avions qui devait transférer les coureurs de la province du Haut-Ogooué vers Lambaréné. Malgré toutes les mesures prises pour assurer les vols aériens dans les meilleurs délais afin de permettre aux coureurs d'être au départ ce midi, les organisateurs ont pris la décision d'annuler l'étape en concertation avec le président du jury et les responsables des équipes engagées sur cette épreuve. On rappelle que le Biélorusse Stanislas Bascou portera le maillot jaune de leader au départ de la cinquième étape demain matin entre Lambaréné et Kango.
Et en football, Nico, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie.
Le Cameroun qui bat sévèrement le Soudan 4-1 et se relance après sa défaite au premier match. Le Sénégal affronte l'Afrique du Sud dans le deuxième match de la journée.
Et le tout-puissant Mazembe recrute un joueur belge, Nico.
Après avoir mis un terme à son prêt avec Montpellier, Anthony Vandenborre s'est engagé pour le tout-puissant Mazembe. Le latéral international belge retrouve à 29 ans sa région natale du Katanga puisqu'il était né à Likasi. Outre le club belge, Vandenborre a également porté les couleurs des clubs italiens de la Fiorentina, du Genoa ou encore le club anglais de Portsmouth.
Enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Le pivot camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, l'une des révélations de la saison, ne rejouera pas d'ici la fin de la saison régulière, et ce en raison d'une blessure au genou gauche, c'est ce qu'a annoncé son club. Notre objectif prioritaire est de protéger la santé à long terme de Joel pour qu'il soit performant sur le terrain, a insisté le président des opérations basketball des Sixers. Embiid, 22 ans, n'est plus apparu en match officiel depuis le 27 janvier, et son équipe, qui avait redressé la tête en janvier, a perdu 9 de ses 14 derniers matchs. Boston, hier soir, a fait mordre la poussière aux champions en titre Cleveland, victoire 103-99 lors d'un match digne des playoffs. Et puis les Clippers de Los Angeles ont été conspués par leur public après leur déroute à domicile face à Houston, 103-122.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Les organisations de la presse privée du Tchad accusent l'Agence nationale de sécurité, un service de contre-espionnage, de harceler et de menacer les journalistes. Ils s'inquiètent du sort d'Eric Kokinangwe, directeur de publication de Tribune Info, Malaki Mbayiraga Djombe du journal Mutation et Daniel Ngadjadoum, un journaliste de Tribune Info enlevé dimanche par deux hommes armés avant d'être relâché trois jours plus tard. Timothée Donangmai, adjoint à N'Djamena, Belngar l'armée, la guerre, président de l'Union des journalistes tchadiens, l'UJT.
On reprocherait à Malassi de faire paraître un article sur un agent de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, qui exerce comme journaliste à Moundou dans la région du Logone occidental. Mais précisément à Eric, qui est le directeur de Tribune Info, on ne sait pas jusqu'à présent pourquoi on le reproche.
Quel est l'impact de cette situation sur les activités des journalistes au Tchad?
Il y en a peur parce que, je vous le dis, le domicile de cette publication de Tribune Info a été envahi il y a quelques jours par les éléments de l'Agence nationale de sécurité, qui était allé jusqu'à même perquisitionner son domicile. Il y a eu quelques-uns qui faisaient le tour de la concession pour voir peut-être les mouvements ou à quelle heure il va rentrer. Donc il y a la panique, il y a l'inquiétude et il y a la peur qui ne permet pas aujourd'hui aux journalistes de travailler normalement.
Qu'attendez-vous des autorités?
Nous avons lancé un appel au gouvernement. Le Tchad est un état de droit et les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Si l'on reproche quelque chose à un journaliste par rapport à son travail, que les instances soient saisies durement et qu'ils répondent de ces actes. Mais il n'appartient pas à l'Agence nationale de sécurité de traquer les journalistes parce que ce n'est pas son travail.
Belngar, l'armée à la guerre, président de l'Union des journalistes tchadiens, l'UJT. À présent, la réaction de Dieudonné Ndjonabaye, président du Haut Conseil de la communication, le HCC.
Une des missions du Haut Conseil de la communication, c'est de garantir la liberté de presse et la liberté d'expression. Mais ces organes d'information se sont mis hors la loi par rapport au Conseil de la communication. Une des dispositions de la loi sur la presse leur fait obligation de déposer deux exemplaires de leur parution, c'est-à-dire de faire le dépôt légal. Mais notoirement, nous constatons ici à N'Djamena que la plupart des journaux refusent de faire le dépôt légal. Donc nous arrivons à la déduction que ces journaux nient l'existence du HCC, qui est pourtant une émanation du monde de la presse tchadienne.
Les journalistes estiment qu'en dehors du Haut Conseil de la communication, c'est à la justice de s'occuper des délits de presse et non l'Agence nationale de sécurité, qui est un service de contre-espionnage.
Bon, le parquet d'instance peut s'auto-saisir, mais il faut que le parquet aussi voit le journal, entre en possession du journal, qu'on fasse le dépôt légal. Mais si le parquet d'instance n'a pas le journal, ne l'a pas vu, idem pour le HCC, qui ne reçoit pas les exemplaires des journaux, comment peut-on réagir au niveau du parquet et au niveau du HCC?
Dieudonné Ndjonabaye, président du Haut Conseil de la communication du Tchad, joint à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Cotonou renforce la lutte contre le commerce illicite de faux médicaments. 7 ans après son appel, les autorités du Bénin ont décidé de mettre des bouchées doubles pour conscientiser la population en attirant l'attention sur les dangers. Ginette Fleur-Adandé a Cotonou pour les détails.
Sale temps pour les vendeurs de médicaments de la rue. Depuis près d'une semaine, ils font les frais de leur obstination à tout miser sur un commerce perçu comme une infraction grave. De toutes les descentes effectuées dans ces pharmacies à ciel ouvert, celle-ci restera pour longtemps dans les annales de l'histoire. Une descente inopinée qui aura permis à la mission conjointe de procéder à la saisine de 84 tonnes de faux médicaments et à l'arrestation de 109 personnes. Le bilan est encore partiel puisque les descentes se poursuivent dans les villes du Bénin. Djibril Kouito est vendeur de médicaments frelatés à Djégoulé, le plus grand marché de ce genre de médicaments combattus. Après la descente, il ne lui est resté que ses yeux pour pleurer.
Ils ont cassé tout. Et voilà, les gens se sont partis prêter l'argent. Hein? Et voilà, il faut voir ce qui se passe actuellement. Qu'allons le faire pour juste pouvoir payer ce qu'ils ont prêté là? C'est pas bien.
Ceux qui exercent la vente illégale de médicaments sont de petites mains d'une filière nationale et internationale bien structurée, clame cette Méninois qui disent ne pas comprendre l'acharnement à punir les petites gens alors que le commerce profite à des personnes bien en vue sur l'échiquier national.
Ça fait pitié. Il y a des dettes maintenant dans ce pays, des crédits que les femmes emploient juste pour faire leur commerce. Il y a des femmes qui ont emprunté de l'argent. Et regardez ce qu'on leur fait dans ce marché. Avec peine, on mange. Avec peine, on vit. Et regardez ce qui se passe maintenant dans ce grand marché.
Des 109 arrestations opérées, 49 personnes ont été placées mercredi sous mandat de dépôt. Pharmaciens et autres spécialistes de santé se félicitent de cette opération qui aura porté bien de fruits. Pour le directeur des pharmacies, siffler la fin de la pagaille était devenu une urgence capitale.
C'est la première fois que c'est fait de façon simultanée sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire à Cotonou, à Porto-Novo, à Boïcon, à Parakou. C'est déjà une bonne chose et que ça a eu une telle réussite, ça veut dire que l'opération a été bien organisée et que la suite sera encore et plus efficace. Ça ne peut qu'être une lutte permanente, ça doit être sans répit. Nous allons être là pour maintenir la veille.
La lutte sera rude et sans complaisance, précise ici le président de l'Ordre des pharmaciens. Pour lui, il faut en finir avec ces chiffres honteux qui font du Bénin le deuxième pays au plan africain en matière de vente de médicaments frelatés.
L'opération vise tous ceux qui sont impliqués dedans. Ce n'est pas que les menus frelatés ou payer des bonnes dames. Oh, les faux médicaments tuent plus que les armes. À supposer que ce soit des armes qui soient vendues comme ça à Djégoulé, vous croyez que le gouvernement allait laisser faire? L'enquête est en cours. Si des pharmaciens sont impliqués, ils seront pris comme tout le monde.
Avec le démantèlement du réseau de vente de faux médicaments, ce sont des milliers de personnes déversées sur le marché du chômage. Et c'est en cela que certains Béninois désapprouvent l'opération, même s'ils sont conscients de ce que le code des douanes rend tout détenteur de produits de contrebande pénalement responsable. Les jours à venir verront certainement tomber les tête pensante de cette vente illicite de faux médicaments. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
En Centrafrique, Bria au centre-est du pays, encore en proie à l'insécurité, la présence des casques bleus de la MINUSCA ne rassure pas les habitants. Conséquence, chacun assure sa sécurité à sa manière. Freeman Sipila.
Au centre de la ville, c'est un calme apparent. Les affrontements armés entre l'UPC et le FPRC, deux factions ex-sélecas rivales aux alentours de Bria, ont renforcé la crainte de la population. Personne ne sait à quel moment tout peut chambouler. Arthur travaille dans une ONG locale.
Là où on est, chacun prend ses dispositions pour ne pas être pris par qui que ce soit. Et donc du coup, là présentement, ce sont les groupes rebelles qui sont là et qui prennent contrôle de la ville. Bon, il ne faut pas trop d'exactions, mais on se méfie quoi. Donc la sécurité n'est pas vraiment au beau fixe. La piscose, ça existe de tout moment. Parce que vous pouvez être là, vous sortez, il n'y a pas d'information, mais du coup, il y a une détonation et voilà.
Les casques bleus ne patrouillent que sur les grands axes. La police et la gendarmerie nationale n'existent que de nom, l'autorité de l'État, loin d'être une réalité. Pour se protéger, la plupart des habitants sont armés de couteaux ou de fusils. Aboubakar Charfadine, étudiant déplacé à Bria.
C'est un comportement très déplorable de la part de la jeunesse centrafricaine qui se promène avec des couteaux. On ne sait pas avec quoi est-ce qu'ils veulent faire avec ces couteaux-là. Et là, je profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement de responsabiliser les autorités, la gendarmerie et la police, de réprimer ces comportements-là. Parce que le fait pour une personne de se promener avec une arme blanche, un couteau, il peut commettre des crimes à tout moment. Et il est dangereux pour la population et la société.
Pour prévenir le danger, restaurer un climat sécuritaire apaisé et lutter contre l'incivisme, le conseil préfectoral de la jeunesse mène des campagnes de sensibilisation. Ibrahim Saleh Hamid est son président.
Nous avons reçu des formations plus sur le droit de l'homme, sur le civisme, etc. Automatiquement, on commence à faire une sensibilisation dans le quartier, échanger avec la jeunesse, surtout sur le civisme. On a pris le cas de notre mairie qui a été vandalisée pendant le dernier événement. Les matériaux des mairies qui ont été emportés au quartier. Nous avons demandé à nos frères jeunes, ceux qui détiennent devant eux ces matériels, de faire restituer ça en place. Et puis ceux qui connaissent qui détient ces matériels, de leur demander simplement vraiment ce matériel appartient à la population, de ramener en place afin que la mairie puisse vraiment fonctionner comme il se doit.
L'instabilité sécuritaire a paralysé l'administration publique. Tous les services de l'État, réhabilités et rééquipés par la communauté internationale, ont été pillés et saccagés durant les affrontements de novembre dernier entre l'UPC et le FPRC au centre de Bria. Freeman Sipila, Bria, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le marché international du cinéma africain Mika constitue une des pièces maîtresses du FESPACO à Ouagadougou. Acheteurs, producteurs, vendeurs et distributeurs du monde se rencontrent à chaque édition du festival pour faire des choix, partager de l'expérience et diversifier l'offre en matière de production audiovisuelle et cinématographique. Issa Napon.
Dans des allées feutrées d'une grande salle, se dressent des stands tout aussi colorés les uns que les autres. Des stands pris d'assaut par des exposants aux offres diversifiées, mais tout en rapport avec le cinéma ou l'audiovisuel d'une façon générale. Sur place, tout se côtoie, ateliers de visionnage, stands de présentation d'outils de production et de distribution cinématographique, vente de programmes. Halima Ouedraogo, elle, est animatrice de l'association Cinomade.
L'association Cinomade est une structure basée à Bourgogne-du-Nassau. Nous créons et nous diffusons des outils de sensibilisation. Bon, ce qui nous motive au MICA ici, c'est la rencontre d'autres réalisateurs, d'autres producteurs. Voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour que le cinéma africain ait en avance, en particulier le cinéma burkinabé.
À 150 mètres de son stand se trouve l'installation de H Studio Cinéma. Jules Alexandre Komara en est le porte-parole.
C'est une société ivoirienne et qui tourne autour de trois pôles, c'est-à-dire le doublage de films, la location de matériel et aussi la production. Nous restons positifs en espérant que, à la sortie de SMICA, nous pourrons avoir beaucoup plus de contacts et avoir aussi un réseau.
Des va-et-vient aussi de réalisateurs de tous bords désireux de vendre leur production, à l'image du lauréat de Success Film Award 2017 au Burkina Faso, Yacouba Napon, directeur de Z Production.
Je suis là au MICA pour faire des rencontres et essayer de vendre mon film Adieu Belle Mère qui a été le premier prix succès cinéma au Burkina Faso. Il y a des acheteurs qui sont intéressés et qui avaient besoin impérativement d'une copie.
Tout le monde a la possibilité, aussitôt que les choix des films sont faits, de les visionner dans un espace consacré où Séné Savoie-Dogo est le responsable de la vidéothèque disponible au MICA.
Cette vidéothèque est composée de box de visionnage. Voilà. Et puis, il y a une liste des films qui sont à la disposition des professionnels.
Tout ou presque tous les segments représentatifs du milieu cinématographique se retrouvent dans ces allées du marché international du cinéma et de la télévision africain. Ainsi en va-t-il pour ces visiteurs du jour qui vont du professionnel au simple curieux amateur de 7e art africain. Jean Digne en est l'un d'eux.
Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que l'Afrique est un laboratoire de nouvelles images. Le MICA, on repart avec des idées et que je fais partie des gens qui se battent pour que la diversité ne soit pas une caricature.
Le MICA se présente comme la bourse des programmes audiovisuels africains et sur l'Afrique. C'est le lieu de rencontre entre les professionnels de différents pays africains, mais aussi d'Europe et du continent américain, permettant ainsi aux cinéastes de rencontrer les acheteurs, les programmateurs de festivals, les télévisions et les distributeurs. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Eric Manilakis a été avec vous. Passez une agréable soirée à l'écoute de VOA Afrique.